1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment le modèle de potentiel a pu être utilisé pour tester une hypothèse d'un historien. Cette hypothèse a été émise par Fernand Braudel, qui suggérait que ce n'était pas la ville la plus peuplée à un moment donné de l'histoire du monde qui constituait nécessairement le centre de l'économie monde, mais bien la ville qui avait le plus grand potentiel d'interaction, c'est-à-dire qui pouvait être localisée à proximité d'un très grand nombre d'autres villes avec lesquelles elle avait beaucoup d'échanges. Cette hypothèse, eh bien, c'est un historien américain, Jan de Vries, qui a entrepris de la tester en construisant une grande base de données sur la population des villes européennes depuis 1500 jusque vers 1800 et en reprenant d'autres mesures d'accessibilité entre ces villes, notamment par voie fluviale, par voie maritime. Il avait donc défini une distance entre les villes qui lui permettait de calculer un potentiel à partir de ces mesures d'accessibilité entre elles, modulées selon que le transport était de type fluvial, terrestre ou maritime, avec des coefficients pondérant les distances pour son calcul de potentiel. Donc, aux époques qu'il envisageait, la liste des trois plus grandes villes comprenait très souvent Paris, qui arrive au premier rang dès 1500, le reste en 1600, et n'est supplanté par Londres qu'à partir de 1800. Au deuxième rang, nous avions Naples, jusqu'au XVIIe siècle, puis Londres et Paris, qui a pris la place de Londres. Et nous avions au troisième rang en 1500 Venise, puis Londres, puis Naples. Donc, De Vries a proposé de représenter le potentiel d'interaction urbaine, d'interaction des villes entre elles, par des courbes de niveau, des isolignes, en partant de la valeur du plus grand potentiel à chaque époque, qui, en 1500, vous le voyez, se trouve situé très largement sur Venise et ses environs, donc toutes les villes de la vallée du Pô, les villes avoisinantes de cette région italienne déjà très urbanisée et très riche en villes. Et nous avons un foyer de potentiel de population urbaine important qui arrive sur la région des Pays-Bas, qui dès cette époque était déjà relativement urbanisé. Lorsque nous regardons la carte en 1600, un siècle plus tard, nous voyons que le foyer de Venise s'est sensiblement amenuisé, tandis que le foyer des Pays-Bas, autour de Anvers et Bruges, s'étoffait. C'est que dans l'intervalle, après la chute de Constantinople en 1453, après la découverte par les Européens de l'Amérique du Nord à partir de 1492 et l'ouverture du commerce maritime qui s'en est en suivi via la mer du Nord, l'Atlantique, nous avons un développement important de ce commerce piloté par beaucoup de villes néerlandaises. Rappelons-nous que Jakarta a commencé par s'appeler Batavia. Lorsque nous observons la carte en 1650, nous avons là la preuve que Venise a été supplantée comme centre de l'économie monde à l'époque par les villes de cet ensemble néerlandais qui regroupe Bruges, Anvers, Amsterdam et qui se sont considérablement développées grâce à ce commerce maritime. Et lorsque nous suivons les cartes de potentiel, eh bien nous voyons le déplacement du maximum absolu en 1800 sur la ville de Londres. À cette époque, Londres est devenue la plus grande ville européenne, mais c'est aussi surtout une ville qui a des échanges d'amplitude mondiale grâce au gigantesque empire colonial qu'elle a su se construire. Nous avons repris le travail de De Vries en constituant une nouvelle base de données sur la population des villes européennes grâce au travail accompli par un autre historien, Paul Béroc, qui, avec ses collègues, avait renseigné sur une très longue durée le nombre des habitants de toutes les agglomérations urbaines en Europe depuis au moins l'année 1200. Nous avons pu calculer les potentiels de population en pondérant les distances selon le mode de transport utilisé, transport terrestre, voie fluviale, voie maritime, comme De Vries l'avait fait, en reprenant d'ailleurs ces coefficients pour vérifier que nous pouvions retrouver les mêmes impressions que lui, testant cette hypothèse brodélienne. Et effectivement, nous observons sur la première carte de cette série, en 1200, que la valeur maximale du potentiel se situe déjà probablement sur Venise, avec un effet de contraste qui s'accentue. En 1300, sur la deuxième carte, nous voyons s'affirmer très nettement cette ville comme centre de l'économie mondiale à cette époque. Et c'est encore le cas en 1400, alors que déjà un petit foyer secondaire s'amorce sur les Pays-Bas, qui commence à s'affirmer encore en 1500 et qui, vers 1650, devient à son tour le centre de l'économie mondiale, tout à fait comme De Vries l'avait observé. Et nous continuons, puisque en 1700, nous voyons ce foyer néerlandais, définitivement, ce foyer flamand, devrait-on dire, pour ne pas commettre d'anachronisme, définitivement plus fort que celui de l'Italie. Et puis, en 1800, alors que l'économie monde devient centrée sur la région londonienne, remarquez à quel point la carte alentour de l'Europe est devenue claire. Eh bien, c'est que le contraste entre la vigueur du potentiel de Londres, qui commence à commander un énorme empire colonial qui couvre une partie du monde, et ce que peuvent faire à la même époque les autres villes européennes, eh bien ce contraste s'est très nettement accentué. Ce n'est qu'ensuite, sur les deux dernières cartes, à partir de 1850, on observe que grâce à la diffusion des effets de la révolution industrielle, eh bien, le centre de l'économie monde revient un petit peu sur le continent, notamment Belgique et Allemagne. Et vers la fin du XXe siècle, ce centre de l'économie européenne est localisé dans la région de la Ruhr. Mais bien évidemment, ce n'est plus le centre de l'économie monde, c'est le centre de l'économie européenne, puisque à l'échelle du monde, nous avons désormais New York et puis bientôt peut-être les villes du pourtour du Pacifique qui ont pris l'avance et le relais sur les villes européennes. Ce qu'il faut aussi retenir de cet exercice, qui a ses limites, puisque nous savons qu'il y a des effets de bord dans ces représentations du potentiel, mais c'est aussi l'intérêt de cet instrument pour tester des hypothèses sur la longue durée et effectuer des vérifications, au moins non seulement visuellement, mais aussi par le calcul. Donc nous avons pratiquement un instrument de simulation des possibilités de l'interaction spatiale dans l'espace géographique.